certainement reprendre pour la dernière intervention de la journée. Voilà. Donc nous allons entendre Fabrice Pascot. Donc Fabrice Pascot est astrologue, tarologue, auteur de l'ouvrage Le tarot, symbolisme et divination, et aussi d'un autre ouvrage qui s'appelle Confession d'une voyante, qui est en fait un ouvrage sur sa mère. Il collabore à la revue L'Astrologue, fondée par André Barbeau en 1968. Il a étudié les liens entre surréalisme et occultisme. Donc c'est un ami de Sarah Alexandrian et il a participé à l'aventure de la revue Supérieure Inconnue. Il a été un des membres fondateurs. Bon, on a Virginia qui est ici. J'ai moi-même participé moins assidûment que vous, mais c'est vrai que Sarah était un ami cher à beaucoup d'entre nous. Donc Fabrice Pascot a réalisé une monographie, un film sur Myriam Bat-Yosef, aux éditions Somogy. Myriam Bat-Yosef qui était la première épouse d'Héro, une amie de Bonnard, sur laquelle André-Pierre de Mondiargue a écrit et beaucoup d'autres surréalistes. Donc c'est lui qui a fait la grande monographie sur elle. Il a aussi réalisé le livret qui accompagne le film de Fabrice Mas sur Bronner. Il a été d'ailleurs conseillé pour le film. Il est aussi rédacteur en chef du web magazine qu'il a créé, qui s'intitule Signe Ascendant, hein, qui est un site très 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 intéressant. Hein, il nous en parlera peut-être un petit peu. Il va nous parler donc aujourd'hui des relations d'André Breton et de l'occultisme, histoire d'un malentendu. Hein, on revient à Breton contre Breton, Breton rebelle d'une partie de son propre groupe, de lui-même aussi. Voilà, je te remercie Fabrice.
Merci beaucoup. Alors, par ce très bel après-midi ensoleillé, et à la qualité des interventions précédentes, j'ai le sentiment d'apparaître un peu comme le trublion de la journée venant jeter un voile d'obscurantisme par le thème que je vais aborder aujourd'hui. Alors, il est vrai que les rapports qu'André Breton a entretenus avec ce qu'on appelle l'occultisme est un sujet très sensible, très aigu, et qui demande beaucoup, beaucoup de prudence et de recul lorsque l'on l'aborde. Parce que, effectivement, certains se pincent le nez quand on prononce le mot occultisme. Ensuite, il y a ceux qui sont très pro-occultisme et qui vont tenter de tirer André Breton vers les tables tournantes et autres accessoires des sciences dites occultes. Et puis enfin, il y a les défenseurs d'un matérialisme pur et dur qui jettent un regard extrêmement critique sur cet intérêt que Breton avait pour cette dimension, cet arrière-pays de l'âme, comme je le dis. Et donc là, je voudrais aujourd'hui, alors je n'ai pas la prétention d'épuiser ce sujet en une heure, c'est absolument impossible, parce qu'il y a très très longtemps que je m'interroge sur ce thème, et quand Françoise m'a demandé d'intervenir précisément sur ce sujet, j'ai repris grand nombre d'écrits d'André Breton, et je me suis rendu compte à la fois de la vastitude du sujet et des multiples ramifications qu'il ouvre. Par conséquent, ce que je voudrais aujourd'hui tenter de vous présenter, c'est en fait comment ce processus, comment en fin de compte Breton est arrivé à s'intéresser à ce que j'appellerais la métapsychie, et comment les outils de la métapsychie ou du somnambulisme magnétique, comme on l'appelait au milieu du 19e siècle, a participé au processus d'élaboration de la généralisation de l'expérience poétique chez André Breton. Voilà. Alors, pour commencer mon intervention, déjà le titre, André Breton et l'occultisme, histoire d'un malentendu. Parce que justement, dès qu'on aborde ce sujet, on est confronté immédiatement à un malentendu, parce que il y a eu quand même des textes qui ont été écrits sur ce sujet. Jean Starobinski, par exemple, a écrit un texte intitulé « Freud, Meyers et Breton ». Le psychanalyste René Held aussi, dans son ouvrage « L'œil du psychanalyste », aborde ce sujet. Chacun à leur façon, Jean Tarobinski, avec des propos fort pertinents au demeurant, mais commet des erreurs parce qu'il n'est pas allé justement visiter de près le monde du somnambulisme et de la métapsychie, ce qui fait qu'il commet des erreurs au niveau des pistes qu'il ouvre, et il arrive donc à une conclusion qui est erronée. Et quant à René Held, lui, il appréhende cette question sous l'angle de la psychanalyse freudienne. Alors évidemment, sa démonstration est fort brillante, très bien menée, mais nous nous trouvons confrontés à l'appareillage freudien, la libido, l'homosexualité refoulée à l'intérieur du mouvement surréalisme, le refoulement, le transfert. Bon, d'un point de vue psychanalytique, c'est fort bien mené, mais on peut avoir une toute autre approche, et qui sera tout aussi recevable. C'est bien là la question qui se pose, et le problème également. Alors, pour commencer, je voudrais apporter un point de clarification, justement, et commencer par un bref rappel historique. Le terme d'occultisme fut en fait forgé vers 1850 par l'ex-abbé Alphonse Louis Constant, qui est plus connu sous le nom d'Eliphas Lévy. Il naquit en 1816 et mourut en 1875. Il est entre autres l'auteur du dogme rituel de haute magie. Et c'est seulement en 1892 que le terme occultisme fut admis par l'Académie française. Alors, dire qu'André Breton fut un grand lecteur d'Eliphas Lévy, que celle-ci fut source de réflexion et d'inspiration pour lui, n'est pas exagéré. En effet, il possédait les deux tomes, de dogmes rituels de haute magie, fables et symboles avec leur explication, les mystères de la Kabbale ou l'harmonie occulte des deux testaments. Et l'on retrouve fréquemment le nom d'Eliphas Lévy dans les écrits d'André Breton. Alors je tiens à préciser que l'occultisme défini par Eliphas Lévy n'a aucun lien avec la philosophie occulte telle que l'entendait Henri Corneille d'Agrippa ou Paracelse. Pour ces derniers, c'est-à-dire la philosophie occulte, elle relève davantage d'un développement intérieur qui est lié à un processus initiatique. Alors que pour les occultistes, c'est plutôt la conquête de pouvoir. Et l'occultisme donnera donc par la suite naissance à ce qu'on va appeler les sciences occultes, à l'intérieur duquel on peut trouver quand même un petit peu tout et aussi du n'importe quoi. Comme je dis, ça peut être la samaritaine du troisième œil. Il y a quand même un grand nettoyage à faire et une approche extrêmement critique à faire dans cet univers-là. Bon. Et de fait, le terme d'occultisme accolé à André Breton appelle à beaucoup de prudence. En effet, ce « et » de conjonction fait office d'articulation tremblante, à l'extrême limite de rompre avec ses attaches. En effet, André Breton, ennemi de l'opacité, ne déclarait-il pas vouloir habiter une maison de verre ? Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre, où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre ou drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant, confie-t-il dans Nadja. Puis, poussant encore plus loin cette pureté du diamant jusqu'à devenir lui-même objet de son propre désir, je n'ai plus qu'un corps transparent, à l'intérieur duquel des colombes transparentes se jettent sur un poignard transparent tenu par une main transparente, confie-t-il dans son poème intitulé « La forêt dans la hache ». Titre qui invite au renversement de perspective comme pour conjurer ce qui veut mettre au pas une réalité demandant à en découdre. Par conséquent, le mot occultisme, quant à lui, implique immédiatement l'idée de non-divulgation, de secret gardé. Autrement dit, le terreau de l'opacité et du mystère. Et l'on sait qu'André Breton s'est toujours rangé dans le camp du merveilleux contre le mystère. Le mystère, écrit-il dans Le Merveilleux contre le mystère, recherché pour lui-même, introduit volontairement à toute force dans l'art comme dans la vie, non seulement ne saurait être que d'un prix dérisoire, mais encore apparaît comme l'aveu d'une faiblesse, d'une défaillance. Le symbolisme, alors entendez le symbolisme, le mouvement symboliste, hein, le symbolisme ne se survit que dans la mesure où, brisant avec la médiocrité de tels calculs, il lui est arrivé de se faire une loi de l'abandon pur et simple au merveilleux. En cet abandon, résidant la seule source de communication éternelle entre les hommes. Par conséquent, l'occultisme, lui, voile, cultive le secret, le code. Il opère sous la forme d'une société secrète. Il se rattache donc symboliquement aux puissances nocturnes alors que le merveilleux, lui, se révèle, se manifeste au jour et ressort symboliquement des puissances diurnes. Sur ce point, André Breton a toujours insisté. D'ailleurs, il a dû clarifier les choses dans une lettre adressée à l'éminent occultiste Robert Amadou, dans laquelle il le remercie du vif intérêt qu'il porte et qu'il témoigne au surréalisme, mais qu'il convient cependant de ne pas voir dans le surréalisme une société secrète dont l'accès serait réservé uniquement à des élus. D'ailleurs, en vous disant ceci, me revient en mémoire une chose. Robert Canter, c'est Robert Amadou. Je ne suis pas sûr du prénom, mais je crois que c'est bien Robert Canter. Et Robert Amadou ont co-écrit un livre qui s'appelle « Anthologie littéraire de l'occultisme ». Et donc, ces deux auteurs ont recensé les auteurs qui, selon leurs critères, étaient les plus marquants dans le domaine de l'occultisme. Et André Breton figure au nombre de ses auteurs. Je crois même que c'est lui qui conclut l'ouvrage.
Il y a un article de Robert Canters, le numéro 2 de l'usine, sur le même sujet.
Voilà, c'est Robert Canters, ça c'est ça, oui. Ouais.
Et il était déjà à la fin de...
D'accord. Et donc, René Guénon, à l'époque, qui était dans le domaine de l'ésotérisme, par contre, et non pas de l'occultisme, je précise, une autorité recensait des notes de lecture dans les éditions traditionnelles, la revue dont il était le directeur, et il fait donc une critique très sévère, comme on peut s'y attendre de ce livre, et manifeste sa grande surprise, son étonnement, de voir André Breton figurer parmi les auteurs de l'occultisme. Alors, non que René Guénon ait pris la défense du surréalisme, je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants, mais pour moi, force m'est quand même de me ranger dans la critique de René Guénon, parce qu'effectivement, André Breton n'a pas à être rangé parmi les auteurs et les écrivains de l'occultisme. Voilà. Et donc, c'est bien pour vous dire que le terrain est très très glissant. Chacun y va aussi de ses projections et de ses désirs en ce qui concerne l'œuvre d'André Breton. Alors, je conclue sur cette anecdote, mais je pense qu'elle avait la valeur d'être dite. Alors donc, en précisant que le surréalisme n'est pas l'apanage d'élus, André Breton reste ainsi fidèle à sa volonté d'étendre l'expérience poétique et à l'injonction de Tréhamon, à savoir la poésie doit être faite par tous et non par un. L'activité surréaliste s'inscrit donc comme la source de communication éternelle entre les hommes dans un projet collectif et elle ne peut par conséquent s'opérer qu'au grand jour et dans la réalité même. Et ce désir de la transparence, donc de donner à voir, va rester permanent dans tous les domaines d'investigation que va aborder André Breton, et le domaine de la parapsychie, de l'alchimie, des arts, des divinatoires, s'inscrira dans cette dynamique. Et contrairement à ce qu'en disent certains, André Breton n'a jamais voulu vulgariser ce qui ressort de la connaissance ésotérique, de l'initiation pure, dans l'acception propre du terme. Il avait sur ce point le plus haut respect sur ce qui fait autorité en la matière et condamner avec virulence l'imposture sur ce domaine-là. Il a, par exemple, toujours exprimé sa très haute estime pour l'œuvre et les travaux de René Guénon, tout en précisant qu'il n'était pas du tout en accord avec lui sur sa vision de la société, et il qualifiait René Guénon sur ce plan de réactionnaire. Mais toujours est-il que l'œuvre de René Guénon a compté pour lui, parce que lorsque on fait le recensement de sa bibliothèque, André Breton possédait les ouvrages majeurs de René Guénon. Hein, il avait entre autres l'ésotérisme de Dante, l'erreur spirite, le symbolisme de la croix, le roi du monde, aperçu son initiation, les principes du calcul infinitésimal, le règne de la quantité, initiation et réalisation spirituelle et les états multiples de l'être. C'est dire quand même l'intérêt qu'André Breton a porté à l'œuvre de René Guénon. D'ailleurs, dans les années 20, André Breton avait lancé un appel en direction de René Guénon pour lui demander de rejoindre l'activité collective. Mais le surréalisme prenant l'automatisme psychique, la psychanalyse, la révolution sociale, autant de sujets que Guénon combattait, quand on se reporte à son ouvrage Aperçu sur l'initiation, ce qu'il pensait de la psychanalyse, pour lui, c'était de la contre-initiation. Voilà. Donc, Guénon ne pouvait absolument pas rejoindre, je dirais, le surréalisme. Mais on peut toujours se poser la question pourquoi André Breton avait lancé cet appel à René Guénon, tout de même. Je crois que Breton, évidemment, voyait dans la possibilité d'une collaboration de René Guénon, justement, quelque part, cette résolution des fameuses antinomies. Voilà. Le seul problème, c'est que René Guénon, lui, restait campé sur les principes de la tradition primordiale. Et pour clore sur le cas André Breton et René Guénon, voici ce qu'il déclarait le 31 mai 1956 sur les rapports entre le surréalisme et la tradition. Début de citation. S'il m'est arrivé, et s'il m'arrivera sans doute encore de citer René Guénon, c'est que je tiens en grande estime la rigueur de déroulement de sa pensée, sans toutefois être disposé à reprendre à mon compte l'acte de foi sur lequel se fonde au départ sa démarche. Comme je vous le disais, Guénon se rattachait à la tradition primordiale et par conséquent au rattachement à ce qu'il appelait le principe supérieur qui sous-entendait une transcendance. Et on sait très bien quelle était la position des surréalismes vis-à-vis de la transcendance. Il niait toute possibilité de transcendance. Donc il y avait là une rupture de fond entre ces deux courants. Alors, ce qu'il faut toujours garder présent à l'esprit, c'est que pour Breton, le surréalisme, c'était sa pierre philosophale. C'était le creuset à partir duquel il était possible donc de transformer le monde, selon Marx, et changer la vie, selon Rimbaud. Et, pour ma part, le génie d'André Breton est d'avoir emprunté les outils expérimentaux de domaines aussi singuliers que la médiumnité, la télépathie, les arts divinatoires, pour les appliquer à l'expérience poétique afin de parvenir à la surréalité. Le tout vidé des valeurs du spiritualisme, nulle exogénéité telle que l'entend le spiritisme, pas de vie après la mort, pas plus que de communication entre les vivants et les morts. Début de citation, il va sans dire qu'à aucun moment du jour où nous avons consenti à nous prêter à ces expériences, nous n'avons adopté le point de vue spirit. En ce qui me concerne, je me refuse formellement à admettre qu'une communication quelconque existe entre les vivants et les morts, précise-t-il dans son texte intitulé « Entrée des médiums ». Donc, ce qui dominait chez André Breton, et j'insiste beaucoup sur ce point, il ne faut surtout pas le perdre, le garder à l'esprit, c'était la généralisation de l'expérience poétique. Élargir l'expérience poétique à des activités qui ne ressortaient pas de la littérature, et d'ailleurs surtout pas. La littérature, disait-il, le pire des chemins qui mène à tout. Donc, ne pas garder à l'esprit la présence de cette émotion appelée poésie, pour paraphraser Pierre Reverdy, et cet espoir infini que plaçait André Breton, la toute puissance de l'amour, c'est se vouer irrémédiablement au malentendu quant à l'intérêt manifeste qu'il porta à l'ésotérisme et l'hermétisme, pour résumer mon propos. Breton n'a jamais rien mis au-dessus de la poésie et de l'amour. L'acte d'amour et l'acte poétique sont incompatibles avec la lecture du journal à haute voix, écrit-il dans son poème sur la route de San Romano. Puis, il conclut ce poème par « L'étreinte de chair comme l'étreinte poète, comme l'étreinte d'amour, tant qu'elle dure, défend tout échappé sur la misère du monde. » Mais il n'est pas non plus interdit de percevoir aussi dans cet intérêt pour les sciences qu'on appelait, il fut un temps, les sciences maudites, pour ce continent noir de l'être, il n'est pas non plus interdit de voir dans cet intérêt également une forme de subversion face aux puissances du rationalisme et du positivisme et du scientisme, lequel scientisme était la pensée dominante à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. période durant laquelle Breton vit le jour, puisqu'il naquit en 1896, et donc durant laquelle il forgea donc sa propre culture et ses propres résistances intellectuelles et sensibles. À cette époque-là, la science et le scientisme avaient réponse à tout. De façon incontestable, hors de la science, point de salut. Comme le clame non sans ironie Arthur Rimbaud dans Une saison en enfer, Arthur Rimbaud qui naquit en 1854, en plein cœur du 19e siècle, la science, la nouvelle noblesse, le progrès, le monde marche, pourquoi ne tournerait-il pas? C'est la vision des nombres, nous allons à l'esprit, esprit orthographié avec un E majuscule. C'est très certain, cet oracle, ce que je dis, je comprends, et ne sachant m'expliquer sans parole païenne, je voudrais me taire. Alors, puisque je viens de prononcer le nom d'Arthur Rimbaud, je vais emprunter ce grand aventurier aux semelles de vent, je ne vais pas le lâcher tout de suite, et je vais donc faire un crochet par sa fameuse lettre du voyant, daté du 15 mai 1871, adressé à Paul Demigny. Et dans cette fameuse lettre, Arthur Rimbaud dit « Car je est un autre. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archer. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs. On vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du « moi » que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs. Freud et la psychanalyse n'étaient pas encore arrivés pour apporter un nouvel éclairage sur le moi. Puis plus loin, Rimbaud précise, viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Et il est manifestement évident pour moi que Breton s'est inscrit parmi ces autres horribles travailleurs et il aura repris par les horizons où Rimbaud, semble-t-il, s'est affaissé. Et comme Rimbaud le formule, il cherche à se rendre voyant. Mais alors, par le long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Alors, j'insiste parce que j'ai souvent vu cette injonction reprise et bizarrement le mot raisonner est balayé. Je lis souvent le long, immense dérèglement de tous les sens, comme si le mot raisonner venait teinter là bizarrement et que certains, d'une façon inconsciente, le balayaient. Parce que le mot raisonner, là, a toute son importance, il est capital, justement. C'est-à-dire que, j'allais dire Breton, vous voyez, je les mélange. Rimbaud ne demandait pas de basculer dans ce qu'on peut appeler la transe extatique, où le sujet va perdre tout contrôle. Justement, Rimbaud voulait vivre cet état en restant totalement lucide. Quand il écrit « J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute », ça veut dire qu'à l'intérieur de ce dérèglement de tous les sens, il tenait à garder le contrôle, à garder donc sa part consciente à l'intérieur de cette manifestation, je dirais, de l'inconscient. Ce que je veux dire par là, c'est que André Breton, justement, en allant dans le domaine de la métapsychie, a voulu opérer exactement la même chose, hein, pour l'amener à l'expérimentation poétique. Alors, pour étayer mon propos, justement, je vais faire intervenir un personnage qui a marqué l'histoire de la métapsychie. C'est le docteur Eugène Ostie. Docteur en médecine, en 1909, il va vivre une expérience qui va totalement réorienter son existence. Il est invité à une réunion et lors de cette réunion, il se trouve en présence d'une femme qui est chiromancienne. Alors, ça vient de la chiromancie. La chiromancie, c'est la technique de la lecture des lignes de la main. Donc, cette chiromancienne va lui donner des détails d'une très grande justesse, des éléments intimes de sa vie qui vont le laisser stupéfait. C'est la première fois qui se trouve confronté à une telle situation. Eugène Hosty, qui est, je le rappelle, docteur de formation. Donc, il a suivi une formation scientifique, rationnelle, matérialiste. Puis, il va se prêter à d'autres expériences avec d'autres voyants. Et là aussi, il va être complètement chamboulé par la précision de ce qu'ils vont lui dire. Alors, piqué à vif, curieux, il décide d'entreprendre donc une étude poussée en 1910 sur ces phénomènes. Ses travaux vont être marqués. En 1921, il s'installe sur Paris et rejoint l'IMI, l'Institut Métapsychique International, et collabore entre autres avec Charles Richer, Camille Flammarion, Henri Bergson, qui à l'époque fréquentait l'Institut Métapsychique International. En 1924, Gustave Gellet, qui était le directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique, disparaît et Charles Richer, qui était aussi un homme qui a énormément marqué l'histoire du courant métapsychique, Charles Richer demande à Eugène Hosty de prendre la direction de l'Institut. Direction qu'il assurera jusqu'en 1938, année de sa disparition. Hosty abandonnera son métier de médecin pour se consacrer entièrement à l'étude de ce qu'on appelle les sujets psy. Alors, psy orthographié PSI. C'est-à-dire, c'est la 23e lettre de l'alphabet grec, du grec psyché, qui signifie esprit ou âme. Et la psychologie a repris ce terme et désigne donc un phénomène qui mettrait en action le psychisme et son interaction avec son environnement. Autrement dit, une approche analytique et matérialiste du phénomène dit paranormal. Alors, Eugène Hosty gardera ses distances vis-à-vis de ceux qui voient dans les phénomènes paranormaux la marque de la manifestation divine, d'un au-delà. Et bien que de formation scientifique, il marquera aussi une même distance vis-à-vis du scientisme qui, lui, a contrario, nie catégoriquement l'existence de tels phénomènes. Le scientiste ne va même pas y mettre le petit orteil, pour eux ça n'existe pas. Voilà. Et quand bien même le scientisme y aurait mis les pieds, comme il partait du présupposé que ça n'existait pas, donc il n'y aurait rien vu, soyons clairs. Il opte ainsi pour une autre voie qui est celle qui examine les faits se manifestant dans notre sphère matérielle tout en gardant un esprit dégagé de tout préjugé spiritualiste, et donc, je dirais, scientifique dans l'acception très étroite et opaque du terme. Alors, maintenant, je vais faire intervenir encore un autre personnage. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu André Breton en cours de route, je vais y revenir. Je vais faire intervenir un autre personnage qui est Pascal Fortuny. Alors, Pascal Fortuny a fréquenté l'Institut Métapsychique International. C'était un sujet psy, un voyant. Il donnait ce qu'on appelle des séances en public de voyance, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce type de séance de nos jours, des voyances publiques. On dénombre à 1500 le nombre de personnes qui se sont présentées à ces séances. Alors voilà ce que dit Eugène Hosty, puisque Eugène Hosty a étudié le phénomène Fortuny de très près, a assisté à ses séances, et voilà ce qu'il dit dans le livre qu'il lui a consacré, intitulé « Pascal Fortuny ». Alors hélas, ce livre n'a jamais donné l'objet de réédition à ma connaissance, mais vous pouvez le trouver aisément sur Internet. Hein. Pascal Fortuny, docteur Eugène Hosty, c'est l'édition, me semble-t-il, de 1926, je crois. Alors voilà ce qu'il dit quand même. Début de citation. Il se rend parfaitement compte que ce qu'il voit, entend, sent, n'est pas un reflet du dehors, mais une amplification du dedans. Alors, je cite le docteur Fortuny, et vous allez entendre en écho Arthur Rimbaud tout de même. C'est pour ça que j'insiste sur ce personnage. Il se rend parfaitement compte que ce qu'il voit, entend, sent, n'est pas un reflet du dehors, mais une amplification du dedans. L'atmosphère de ses perceptions n'est même pas comparable à celle de l'homme endormi qui rêve. Fortuny perçoit deux réalités, l'ambiance vraie, salle, assistant, etc., à laquelle il ferme le mieux possible ses sens, et dans cette ambiance, la projection plus ou moins forte de l'évolution imagée de sa pensée intérieure. L'objectivation des images visuelles n'a jamais de force véritablement hallucinatoire. Pascal Fortuny reste à tout moment pleinement conscient qu'il n'est pas devant des spectacles réels, mais devant des représentations mentales plus fortes qu'à l'ordinaire, intermédiaires, pourrait-on dire, entre la pensée intérieure normale et l'hallucination. Nous sommes donc là devant l'état d'une manifestation d'un état intérieur dont le sujet est à la fois acteur et spectateur. Je serais tenté même là de faire une petite jonglerie, je dirais, d'employer ce qu'on appelle un peu une cabale phonétique, et de parler donc d'un état de transe lucide, transe, T-R-A-N-S-E, trait d'union, lucide. Puisque le docteur Roger Nosty avait baptisé d'états lucides les états de manifestation dits paranormaux. Donc d'un état translucide, T-R-A-N-S-E, trait d'union lucide, par opposition justement au terme translucide, justement, qui lui marque, une difficulté qui laisse passer partiellement la lumière et ne permet pas de distinguer nettement les objets à travers son épaisseur. Donc là, non seulement nous avons la résonance rimbaldienne, mais nous avons aussi le désir de transparence que Breton a toujours défendu toute sa vie. D'ailleurs, ça nous donnera lieu au fameux mythe des grands transparents, développé dans les prolégomènes, un troisième manifeste du surréalisme, ou non. Alors, bien que le nom d'Eugène Nosty n'apparaît jamais dans les écrits d'André Breton, il ne fait jamais allusion au docteur Eugène Nosty. Non, à ma connaissance, j'ai regardé, j'ai pas vu. Non. Et bon, alors bien qu'il ne fasse pas état de Nosty, il connaissait les travaux.
Il le singe,
à propos de
le singe, non?
Augustin le Sage, ouais, il le cite. Ouais, mais il le cite. Ah oui, alors, mais il le cite assez tardivement, justement. Il le cite très tardivement. Ce que je veux dire, c'est que André Breton donc connaissait les travaux du docteur Eugène Nosty, et pour preuve, André Breton fréquentait l'Institut Métapsychique International. Et il avait d'ailleurs assisté à une séance du médium Pascal Fortuny le 7 janvier 1927. Il occupait à ce moment-là la chaise numéro 65. Et donc, il a pris part à cette séance. Alors, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse et vous parler des séances de Pascal Fortuny à l'Institut Métapsychique International. Alors, ces séances s'organisaient d'une façon très très simple. Les personnes se rendaient aux séances. Des chaises étaient installées dans la salle, comme ici, là, par exemple, exactement comme nous sommes là aujourd'hui. Les gens s'asseyaient au hasard, ne donnaient aucune information, rien. Pascal Fortuny se trouvait dans une autre pièce, il attendait. Sans doute se mettait-il en état d'hyper-réceptivité. Et puis, quand il le sentait, il pénétrait dans la salle. Dans cette salle se trouvait le docteur Eugène Nosty, en tant qu'observateur, et une personne qui prenait en note l'intégralité des séances. Et donc, Nosty se promenait dans les rangées, comme ça, et en fonction de ses perceptions, il s'arrêtait devant quelqu'un et commençait à lui parler. Alors, il faut quand même savoir que se prêter à ce type d'expérience, c'est pas neutre. Pour ma part, je me suis prêté à ce type de choses. Il faut quand même savoir que là, le sujet psy, le médium, à ce moment-là, ce qu'il va dire, ce qu'il va nous dire, ça va être un élan spontané. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de prendre du recul, il n'a pas le temps de s'arrêter sur le débit qui va passer. Il est une bouche, il est un intermédiaire, il est quelque part celui par qui la parole se crée. Je crois que c'était Tristan Tzara qui avait dit que la pensée se crée dans la bouche, je crois. Et quelque part, on n'est pas loin de cela. Et donc, de ce fait, Pascal Fortuny était là dans la position de l'automatisme psychologique pur. Totalement. Définition du surréalisme de 1924, surréalisme, automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et le médium se moque éperdument de la notion esthétique et morale. Il est dans une dictée pure, dans un automatisme, et il dit les choses. Alors évidemment, quand vous êtes le sujet passé au rayon violet, eh bien ça peut faire très mal. C'est-à-dire que c'est saisissant ce qui se passe. Le sujet psy peut aller vers des zones très très douloureuses. Et André Breton, de par... alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans toute la mécanique psychique qui relève de ce type de séance, mais évidemment, il y a ce qu'on appelle le champ vibratoire de chacun, et évidemment, un homme comme André Breton avait un champ vibratoire très fort. Et là, ça n'a pas loupé. Durant la séance à laquelle Breton participait, Fortuny est allé sur lui, quoi. Voilà. Mais ça s'est mal passé. C'est-à-dire que Breton, d'après les informations que j'ai pu récolter, alors là je vous parle au conditionnel, Breton ne s'est pas rendu seul à la séance, il y est allé avec des membres du groupe de l'époque. Ils se sont installés au hasard, c'est le cas de le dire, dans la salle. Fortuny est allé sans Breton, et là, stupéfaction, Fortuny commence à lui parler, lui fait donc des révélations qui en fait n'en sont pas, et il évoque Nadja. Il parle d'une femme, d'une rencontre qu'André Breton a fait avec une femme, et là il va évoquer tous les états d'âme, oserais-je dire, tous les états de fluctuation par lesquels il est passé. Ça se passe donc, comme je vous l'ai dit, le 7 janvier 1927. Breton a fait la rencontre de Nadja l'année d'avant, en octobre 1926. Donc c'est très, très frais tout ça. Évidemment, on peut imaginer que Breton a été saisi, puisque Pascal Fortuny a dit les choses. Bon. Il aurait, semble-t-il, abordé le fait qu'André Breton n'aurait pas toujours fait preuve d'une très grande élégance envers cette femme. Ce qui n'a pas forcément plu à André Breton, on peut imaginer. Bref, Breton s'est levé, les autres membres du groupe se sont levés, ça a été la pagaille, on va dire le scandale surréaliste. La séance a été mise à plat. Et étrangement, l'Institut métapsychique n'a conservé de cette séance que le dernier feuillet, parce que l'intégralité a malheureusement disparu. À mon grand regret, puisqu'il eût été quand même très intéressant de lire la lecture qu'a faite Pascal Fortuny, la lecture métapsychique. Alors, je vous dis cette anecdote-là parce qu'elle me semble intéressante, non pas pour piquer André Breton, mais pour montrer l'impact psychique qui se passe dans ce moment-là. Le sujet est saisi par la parole du médium. Je reviens maintenant, je ferme cette parenthèse, je reviens à présent au sujet de notre rencontre. Il est bien évident pour moi que les travaux du docteur Eugène Osti n'ont pas laissé donc indifférent André Breton. Et la rigueur et la prudence dont le docteur Osti a fait preuve devant ces phénomènes ne pouvaient que susciter son intérêt et également son agrément. Et ce que je voudrais là justement vous faire comprendre, tout au moins tenter de vous faire comprendre, c'est que nous sommes là à la confluence de courants sensibles qui font se rencontrer Rimbaud, qui demande à ce que le poète se fasse voyant par ce long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, et nous avouons que pour lui, rester conscient était sa volonté première dans cette transe lucide, Les travaux du docteur Ogenosti avec Pascal Fortuny, qui s'inscrivent dans le même sillage, une stricte observation des 10 phénomènes libérés à la fois de l'emprise spiritualiste et scientiste, c'est-à-dire rester également lucide à l'intérieur du phénomène psy, et le surréalisme en 1924, qui prenait l'automatisme psychologique pur, comme je viens de vous le définir il y a quelques instants. Donc nous sommes là à la confluence de trois courants et qui se rencontrent. Et je dis toujours que le génie de Breton, c'est qu'il va saisir ces confluences et il va essayer de les rassembler, de manière à faire en sorte, comme l'avait dit Arthur Rimbaud, que la poésie ne rythme plus l'action, mais qu'elle soit en avant. Et c'est ça qui va nous conduire en 1930 à la fameuse définition du point suprême, qu'il donnera donc dans le second manifeste du surréalisme. Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le communicable et l'incommunicable, la vie et la mort cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait un autre mobile à l'activité surréaliste que l'espoir de détermination de ce point. Les choses sont claires. Mais là où Breton va aller beaucoup plus loin qu'Arthur Rimbaud, Arthur Rimbaud qui s'est d'image ou ange dispensé de toute morale et qui est rendu au sol avec un devoir à accomplir et la réalité rugueuse à étreindre, écrit-il dans une saison d'enfer, Breton va donc reprendre ce chemin des horribles travailleurs et faire de la poésie un acte de libération. Donc une possibilité à la fois de libération intérieure, d'émancipation, de subversion. Mais il sera également conscient que cette révolution intérieure doit aller de pair avec la révolution sociale. Voilà, c'est-à-dire que là, précisément, la poésie doit être en avant. Donc, il va, à partir de là, vouer une fidélité indéfectible à la pensée de Hegel, au matérialisme dialectique de Hegel. Comme il le précise, pour moi, sa méthode a frappé d'indigence toutes les autres. Où la dialectique hegelienne ne fonctionne pas, il n'y a pas pour moi de pensée, pas d'espoir, de vérité. C'est seulement toutes les vannes de cette dialectique ouverte en moi que j'ai cru constater qu'il n'y avait pas loin du lieu où la pensée hegelienne débouchait au lieu où affleurait la pensée dite traditionnelle. L'un et l'autre, entendu pour moi, à devenir un seul et même lieu, confiait-il à André Parineau dans ses entretiens de 1952. Cette volonté, cet espoir donc de parvenir à ce point, Breton l'exprime aussi d'une toute autre manière dans son poème « Le revolver à cheveux blancs » dans lequel il écrit « C'est l'heure d'en finir avec cette fameuse dualité qu'on m'a tant reprochée. » Par en finir avec cette fameuse dualité, cela peut évoquer aussi l'Advaita. L'Advaita qui est connu aussi sous le nom de la non-dualité de la philosophie hindoue. L'Advaita qui signifie littéralement le nom de, et qui est contraire au Dvaita, prône la non-différenciation de l'individualité et de la totalité. Alors pourquoi est-ce que je fais cette petite incursion avec la philosophie hindoue? C'est bien évident parce que Breton n'est pas l'inventeur du point suprême. On le retrouve dans différentes traditions. On le retrouve dans le Zohar, la Kabbale, la philosophie hindoue, le taoïsme. Mais le génie de Breton repose sur le fait qu'il ait eu l'idée de le rendre accessible à tous, plus précisément de nous inviter à entreprendre cette merveilleuse quête au cœur même de la réalité. Par conséquent, nul besoin de s'isoler dans un temple, de faire une retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours, et ce, combien même ces différentes approches peuvent aussi s'inscrire dans un processus expérimental de la découverte des richesses intérieures, de la réappropriation des pouvoirs perdus. Mais pour Breton, la poésie est précisément ce château d'ombre intérieur qu'il convient d'explorer pour parvenir à une nouvelle source du langage. Comme il est rappelé dans le tract intitulé « Haute fréquence » de 1951, la volonté du surréalisme de rendre à l'homme les pouvoirs dont il a été spolié n'a pas manqué de le conduire à interroger tous les aspects de la connaissance intuitive, en particulier ceux qu'embrassent les doctrines ésotériques, dont l'intérêt est de dévoiler, dans l'espace et le temps, certains circuits ininterrompus. Il n'en répugne que davantage à tout ce qui peut apparenter certains systèmes occultes à un ensemble de recettes d'agenouillement et réaffirme à ce propos son irréductible hostilité à tout fidéisme. Voilà. Alors maintenant, je voudrais aborder un autre aspect de cette question et insister particulièrement sur le langage analogique. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Ces vers sont extraits du poème Correspondance, art poétique idéaliste de Charles Baudelaire. Alors si je cite Baudelaire, c'est parce que justement ce poème évoque la fameuse loi des correspondances, autrement dit la loi de l'interdépendance que l'on retrouve précisément dans l'alchimie, dans l'astrologie, mais également dans la langue poétique. Et d'ailleurs sur ce point, Breton a donné une définition de l'analogie poétique et de l'analogie mystique dans son très beau texte « Signe ascendant ». Alors dans signe ascendant, il faut l'entendre là aussi à double sens, c'est le signe ascendant de la poésie, c'est-à-dire le dégagement de la perspective poétique, et également le signe ascendant qui est un terme qui est employé en astrologie et qui marque le signe qui se lève à l'Orient au moment d'une naissance. Autrement dire, c'est le signe qui pointe au jour. Donc on est toujours dans un processus d'éclaircissement et d'élucidation. Alors, je vais justement là en venir à un sujet, parce qu'avec l'analogie, évidemment, il convient un petit peu de serrer le sujet, parce que là aussi on peut partir dans des ramifications infinies. Alors je vais prendre pour terrain d'analyse et de réflexion l'astrologie. En 2003, lorsqu'il y a eu la vente de ce qui a constitué l'intérieur du 42 rue Fontaine, parmi tout ce qui était donc mis en vente, on a trouvé un dossier qui contenait un nombre incalculable de thèmes astrologiques dressés par André Breton. Et tous ces thèmes, à l'époque il n'y avait pas d'informatique, étaient des thèmes qui étaient dressés à la main, c'est-à-dire qu'il fallait calculer les thèmes. Ce qui demandait donc du temps, de l'implication, et calculer des thèmes astrologiques, ça n'a rien de vraiment amusant. Ce qui marque donc l'intérêt que Breton a témoigné pour l'astrologie. Et là, je me vois donc contraint de contredire ce que déclare Gérard Legrand dans son introduction à la réédition de l'art magique, où il dit qu'André Breton avait un goût mesuré pour l'astrologie. En réalité, il n'en est rien. André Breton a commencé à s'intéresser à l'astrologie dès les années 1920 et jusqu'à la fin de sa vie en 1966. Il y a des dédicaces, des documents qui datent de 1962 où Breton fait encore état de l'astrologie et de la pratique astrologique qu'il avait dans ce qu'on peut appeler la magie du quotidien. Alors, qu'est-ce que Breton a trouvé en fin de compte dans l'astrologie? Alors à mon sens, pour avoir étudié quand même de très très près la question, à mon avis André Breton ne cherchait pas dans l'astrologie un langage oraculaire, à savoir l'aspect dit divinatoire de l'astrologie, à mon avis ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait dans l'astrologie, c'était précisément l'analogie, puisque le langage astrologique repose principalement sur l'analogie. L'analogie que l'on retrouve aussi dans l'alchimie. Nous sommes là, dans la loi d'interdépendance, qui fait que tout est dans tout et tout est relié. Et André Breton s'était exprimé sur ce qu'il pensait de l'astrologie à Robert Knapp et Jean Carteret en 1954. Voici ce qu'il avait déclaré. Démêler une destinée à partir de la situation des planètes et de leur aspect mutuel dans les différents signes et maisons suppose un tel doigté que cela devrait suffire à frapper de dérision, à convaincre d'enfantillage les modes habituels de raisonnement synthétique. Ce que j'ai toujours apprécié au plus haut point dans l'astrologie, ce n'est pas le jeu lyrique auquel elle prête, mais le jeu multidialectique qu'elle nécessite et sur lequel elle se fonde. Que l'astrologie soit la langue d'or de l'analogie, c'est qu'il tend à permettre les plus grands échanges entre l'homme et la nature. Je ne saurais y contredire. Alors même si la formulation détenir un des plus hauts secrets du monde peut être sujet à discussion, nous voyons là que là où précisément Breton marque l'accent, c'est sur la langue d'or de l'analogie au-delà du jeu multidialectique qu'elle suppose. Donc, l'intérêt de Breton est manifeste en ce qui concerne l'astrologie. Mais cet intérêt-là était vraiment poussé très loin, puisqu'il a en quelque sorte, été non pas l'objet, mais dans sa pratique astrologique, astrologique a relevé de ce qu'on appelle du phénomène de synchronicité tel que Carl Gustav Jung l'a développé. En définitive, il rend compte de situations qu'il a vécues dans le quotidien, notamment dans L'amour fou, où il relate, excusez-moi, il faut que je cherche mes notes, voilà, dans L'amour fou, dans le chapitre 1, André Breton donne une date, le 10 février 1934, et parle d'une occultation de Vénus par la Lune. Ce jour-là, il déjeunait dans un restaurant situé près de l'entrée d'un cimetière, ce qu'il troublait beaucoup. Au mur se trouvait une horloge vide de son cadran, et la serveuse portait, début de citation, sur un col blanc à pois, une très fine chaîne retenant trois gouttes claires, comme de pierres de lune, gouttes rondes sur lesquelles se détachait, à la base, un croissant de même substance, pareillement serti. J'appréciais une fois de plus infiniment la coïncidence de ce bijou et de cette éclipse. Donc là, nous sommes en pleine analogie, à la fois sur le ressort poétique, le mouvement planétaire et le sens qu'André Breton va donner à ces deux phénomènes. Puisqu'en définitive, la synchronicité est la manifestation simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Alors, l'origine de la synchronicité, tout de même, pour vous donner un aperçu, c'est ce que relate donc Carl Gustav Jung, qui est le créateur de ce phénomène de synchronicité. Il était en présence de l'une de ses patientes, qui, avant de venir à sa séance d'analyse avec Jung, avait rêvé d'un scarabée la nuit précédente. Et ce scarabée la hantait, elle n'arrivait pas à trouver la signification de la présence de ce scarabée dans son rêve. Et au moment où elle racontait donc le contenu de ce rêve, Jung entend un bruit au carreau, il se retourne et voit précisément un scarabée frappé à la fenêtre. Il ouvre sa fenêtre, s'empare du scarabée et dit à cette patiente, tenez, le voilà, votre scarabée. Ce qui a eu pour lieu, pour elle, il y a eu là un processus d'élucidation qui lui a permis de se libérer de ce rêve. Donc là, on pourrait dire qu'il y a la manifestation du rêve au cœur de la réalité. Donc on est bien là, quelque part, à cette résolution du rêve et de la réalité que cherchait André Breton. Mais alors évidemment, Jung, en développant le phénomène de synchronicité, allait mettre le doigt dans un engrenage infernal, insoluble, et sur ce point, elle est toujours restée très floue, parce qu'en fait, cette femme a rêvé d'un scarabée. Donc on peut voir dans ce rêve un phénomène de manifestation prémonitoire. Elle a rêvé d'un scarabée et elle a eu bel et bien rendez-vous avec un scarabée. Ça veut dire que le sujet, il est insoluble. Vraiment. Et alors, en fonction de l'approche des uns et des autres, Certains vont voir là une forme de mysticisme chez Jung, alors que, alors évidemment, on peut longuement discuter sur le mysticisme chez Jung, puisque, évidemment, il a quand même, pour moi, effectivement, Jung, dans sa démarche, relève vraiment du mysticisme. Bon. Alors, on est là, encore là, à une confluence qui soulève évidemment une question. Mais, il est bien évident que pour André Breton, cette question-là ne se posait pas, puisque le surréalisme avait pour justement fonction de résoudre le divorce entre le rêve et la réalité. Donc c'est pour ça que, pour moi, André Breton est un passant considérable, pour reprendre ce qu'avait dit Mallarmé concernant Arthur Rimbaud, parce qu'avec le surréalisme, il nous a quand même livré une clé qui, nom de nom, nous permet de nous débarrasser de cette satanée pensée binaire qui nous pourrit l'existence, quand même. Il nous a livré quelque chose d'infiniment précieux avec ça. Voyons le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nom de nom, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que lorsqu'on déclare que le surréalisme est enterré et qu'il est historiquement mort, s'il est éteint dans son aventure collective, il demeure dans ses fondements, c'est-à-dire ce rapport avec la réalité et la surréalité qui est présent au cœur de cette réalité-là. Et il nous a laissé quelque chose qui est précieux, qui n'a pas de... c'est fantastique ce qu'il nous a laissé là. Alors, évidemment, le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis a eu une très belle formulation dans son livre « La traversée des ombres ». Et il pose cette question-là, en fait, « Et si les séances de télépathie de Jersey, faisant écho à Victor Hugo, et si les séances de télépathie de Jersey préfiguraient nos séances d'analyse qui font parler le disparu ?» Si le guéridon d'enfant était l'ancêtre de nos divans, si c'était l'ombre qui donnait de la lumière. Fin de citation. La question est levée et elle mérite d'être poursuivie et d'être analysée. Dans Les Vases communicants, Breton a cette phrase : toute erreur dans l'interprétation de l'homme entraîne une erreur dans l'interprétation de l'univers. Elle est par suite un obstacle à sa transformation. Alors ce qui me frappe dans cette phrase, c'est qu'elle part de l'homme. Toute erreur dans l'interprétation de l'homme entraîne une erreur dans l'interprétation de l'univers. Ce n'est pas l'inverse. C'est comme s'il intervertissait, il inversait le processus astrologique. C'est-à-dire que là, on est dans une vision très anthropocentrique et on est donc dans une vision prométhéenne. Car le surréalisme s'inscrit aussi dans une optique et une révolution prométhéenne. Alors, la grande question, quand on se porte sur le dossier astrologique, et j'ai souvent été confronté à cette chose-là, André Breton ne croyait pas en l'astrologie. La preuve, il avait changé sa date de naissance. Alors c'est à mourir de rire, parce qu'on peut très bien dire le contraire. C'est justement parce que Breton croyait en l'astrologie qu'il a changé sa date de naissance. On est encore là devant ce mode de pensée binaire. Quoi. Bon. Alors évidemment, il avait transformé sa date de naissance. Il a toujours dit être né un 18 février 1896. Or, l'acte de naissance indique le 19 février 1896. Alors, c'est sujet à beaucoup de réflexions. Je ne vais pas rentrer dans le langage astrologique. Du signe des poissons pour le 19 février, il passait au signe des Verseaux pour le 18. Alors évidemment, ça nous ramène à une approche d'un livre qui a été écrit par André Barbeau et Jean Carteret qui s'appelle « Analogie de la dialectique Uranus-Neptune » puisque le signe du poisson répond à la planète Neptune et le signe du Verseau à la planète Uranus. Et André Breton, dans le second manifeste du surréalisme, fait une note en bas de page dans laquelle il cite les travaux de Paul Chouanard, qui était un polytechnicien et qui avait posé les fondements scientifiques de l'astrologie. Et il fait état de la planète Uranus et des influences qu'elle pourrait avoir sur la présence et la réalité du surréalisme. Par conséquent, ça prouve bel et bien quand même l'acuité et l'intérêt que Breton portait encore une fois de plus à l'astrologie. Et en plus, en parlant de ça, ça relevait de la grande astrologie de la haute tradition qui est l'astrologie mondiale, bon, qui est encore une autre forme d'astrologie. Alors, le côté magique du quotidien qu'entretenait Breton, vous savez, le rapport qu'il avait avec l'objet. Là aussi, l'objet, le rapport à l'objet, était placé dans une dimension analogique. Mais j'ai une anecdote quand même à vous raconter, anecdote qui a été donnée par Jean-Pierre Lassalle et qui ensuite m'a été confirmée par René Allot en personne. C'était à l'époque où André Breton rédigeait son livre « L'art magique ». Et l'on sait que c'est un livre qui lui a donné beaucoup de difficultés. Parce que quand il a accepté cette commande, c'était d'ailleurs la première fois qu'André Breton acceptait une commande, parce que Breton a toujours répondu à la nécessité intérieure pour écrire. Et là, il a accepté de répondre à cette commande où on lui avait demandé de travailler sur cette question, et donc il avait donné pour titre l'art magique. Et quand il a commencé à ouvrir le dossier, il s'est rendu compte de la gageur et dans quel maquis il s'engageait. Car l'art magique et la magie de l'art sont encore deux notions bien distinctes. Et alors, pour essayer justement de bien canaliser son parcours, il s'est inscrit dans le sillage de Novalis. Et il a dû avoir recours à l'aide de Gérard Legrand, brillant helléniste, pour quand même arriver à finaliser ce travail. Et un jour, lors de la rédaction de son livre, il est interdit, il est pris d'une torpeur, il n'arrive plus à articuler un mot, à écrire une ligne. Il ne comprend pas ce qui se passe en lui, du tout. Il cherche, il ne comprend pas, cet état s'installe, dur. Et c'était quand même un homme qui avait une très grande lucidité. C'était quelqu'un, comme on dit, qui avait la tête bien claire. Et il commence à se poser un tas de questions. Pourquoi il est dans cet état-là? Il ne se reconnaît pas et il ne comprend pas ce qui se passe en lui. Et il commence à faire l'inventaire des dernières acquisitions qu'il a faites. Et puis il note qu'on lui a offert dernièrement un objet, c'était une statuette brésilienne qui avait été utilisée en Haïti pour des cérémoniales et des rites vaudous. Et alors, André Breton, immédiatement, à l'intuition, se dit que eh bien, sa torpeur, son impossibilité à pouvoir écrire, est due à cette statuette. Mais il ne sait pas quoi faire devant ça. Il est convaincu que c'est ça. Et alors il téléphone à René Allot. Alors René Allot, je le présente rapidement. André Breton a fait la connaissance de René Allot dans les années 50. Ce dernier donnait toute une série de conférences d'alchimie à la Sorbonne. Et une longue et profonde amitié s'est liée, tissée entre ces deux hommes. Du reste également avec Eugène Consolier, grand alchimiste, et il faut savoir que René Allot, Eugène Consolier et André Breton avaient pour but de créer une revue ensemble. Malheureusement, ce projet n'a pas vu le jour, hélas, à mon grand regret. Et donc Breton appelle René Allot à son secours, et il lui dit, voilà ce qui m'arrive, je ne peux plus écrire, et voilà, cher ami, parce que vous savez, André Breton était très cérémonieux, cher ami, je ne sais pas quoi faire, mais voilà, on m'a offert dernièrement cette statuette qui a servi lors de rites vaudous, et je suis convaincu que mon problème vient de la présence de cette statuette. Que dois-je faire pour m'en débarrasser? J'ai songé à la plonger dans la Seine, et Allot lui répond, ne faites pas ça malheureux, vous allez périr par les eaux. Donc Breton dit, bon bah alors je vais la brûler, ah non, ne faites pas ça, il va y avoir un incendie chez vous. Alors Breton lui demande, bah que fais-je? Il dit, j'arrive, lui fait René Allot se rend au 42 rue Fontaine. Breton lui ouvre la porte, Allot voit la statuette, et Breton lui dit, oh mais j'ai trouvé, je vais aller la vendre à un galeriste. Et donc, nos deux compères sont allés chez un galeriste, et Breton s'est débarrassé de la statuette. Alors, Que dire d'une telle chose? Évidemment, l'analyse matérialiste est que Breton a eu à un moment donné, a été stoppé dans son processus intellectuel, et comme étant cet arrêt intellectuel momentané, en projetant donc cet arrêt intellectuel sur la statue, la désignant comme étant responsable de cet état de torpeur, et s'en débarrassant, il se débarrassait par là même de cet état intérieur. C'est l'analyse matérialiste qu'on va faire. Mais évidemment, l'autre est tout aussi recevable, à savoir que la statuette était un processus d'envoûtement et que sa présence, comme Breton était un personnage qui était très à l'écoute et très sensible à ces manifestations-là, que la charge de sortilège que contenait cette statuette aurait été opérative sur André Breton. Et là encore, la résolution des antinomies, hein, quand c'est comme ça, je crois que moi personnellement, les deux approches sont tout à fait recevables, mais je vous avouerai que j'incline autant vers l'une que l'autre. Je suis un petit peu dans cette situation-là comme un culbuto. Voilà. J'ai pas une position réellement tranchée là-dessus. C'est infiniment compliqué. Les derniers jours de sa vie, je ne sais pas si vous avez lu le très beau livre qui vient d'être publié aux éditions Gallimard de Radovan Ivzik. Rappelez-vous cela, rappelez-vous bien tout, tel est le titre de ce livre, il vient de sortir il y a 3 semaines. Et Radovan Ivzik, dans ce livre, raconte les derniers jours d'André Breton, puisque Radovan Ivzik était à ses côtés à Saint-Cyr-Clapobie. C'est un livre extrêmement émouvant. Alors, rappelez-vous cela, rappelez-vous bien tout. Audition Gallimard. Donc, je vous disais, c'est un livre extrêmement émouvant, très troublant. En l'abordant, je craignais encore d'être confronté aux disciples ayant recueilli les dernières paroles du maître. Vous voyez, certains nous ont donné ça, hein, dans le mouvement surréaliste, quand même, je tairai les noms, puisqu'ils ne sont pas là pour se défendre. Mais là, on échappe à ça avec Radovan Ivzik. Il rend compte de l'état quotidien d'André Breton. Et c'est extrêmement émouvant. On voit qu'André Breton n'avait pas perdu son sens de l'humour noir, puisque à un moment donné, il demande à Elisa de coucher sur son testament qu'il veut être enterré debout dans une pendule. Et il dit comme ça, au cimetière, ils vont bien s'amuser à creuser une tombe à la verticale. Alors, non seulement il voulait être conduit au cimetière dans un camion de déménagement, mais en plus dans une pendule. Alors là aussi, on peut voir un lien analogique pour l'homme qui cherchait l'or du temps. On peut effectivement enterrer à la verticale dans une pendule, la mort étant le dernier moment où on échappe au temps. Il était là dans la recherche infinie de l'or du temps. Breton avait donc, durant ses derniers jours, il était à Saint-Cyr-Clapopie, il avait un rite quotidien qu'il avait confié à Toyen, un peintre tchèque qui était là, et il lui avait dit, vous voyez, la mairie était en cours de démolition. Et il avait dit à Toyen, vous voyez, quand la dernière pierre de cette mairie va tomber, ça sera le jour de ma mort. Et Toyen portait le poids de cette confidence et elle en a fait part à Radovan Ivzik. Bon. Et tous les jours, André Breton se rendait au centre de Saint-Cyr et constatait les chutes de la mairie. Et puis un jour, il a des problèmes respiratoires. Radovan Ivzik, Elisa appelle le médecin vient, dit qu'il faut rapatrier d'urgence André Breton à Paris. Une ambulance est amenée, Breton est mis dans l'ambulance. Aux côtés d'Elisa, André Breton perd un petit peu la tête en cours de route, mais il la perd encore là d'une façon surréaliste, puisqu'il pose la question, une question tout à fait stupéfiante à Radovan Ivzik. Il se tourne vers lui, il lui dit: quelles étaient déjà les mesures de l'autre âme? Voilà. Donc même là, dans ces moments d'égarement, il est resté surréaliste. Voilà. Il arrive à Paris, On le monte tant bien que mal dans son appartement du 42 rue Fontaine. Et puis il ne va pas mieux, on rappelle un médecin, le médecin l'ausculte et dit qu'il faut tout de suite l'hospitaliser à la Rivoisière. Et Breton va mourir le matin du mois de septembre. Et Radovan Ivzik prévient Troyen pour lui faire part de la mort d'André Breton. Et Troyen, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se rend au centre du village de Saint-Cercle-la-Bobie et elle constate que la dernière pierre de la mairie venait de tomber. Voilà. Alors, on peut voir là une prescience vraiment chez André Breton. Voilà. On peut voir un phénomène de synchronicité, hein, c'est-à-dire deux événements simultanés qui n'ont pas de causalité, mais dont le lien est donné par le sens qu'on lui donne. Mais toujours est-il que ça va au-delà tout de même, parce que Breton avait annoncé avant la chose. Lorsqu'il est mort, il était à Paris, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu là une suggestion, c'est-à-dire qu'il a vu la dernière pierre tomber, que celle-ci ait créé une suggestion et qu'il soit mort. Il se trouve qu'il est mort en même temps, à de nombreux kilomètres de distance. Donc il y avait là une préscience, indéniablement. D'ailleurs, j'ai relu là pour notre rencontre Introduction au discours sur le peu de réalité, qui est un texte que j'aime beaucoup d'André Breton, et il y a quelque chose qui m'a frappé. Il parle à un moment donné de la télégraphie sans fil, de la téléphonie sans fil et de l'imagination sans fil. Ne sommes-nous pas présentement dans ce monde-là de la téléphonie sans fil, qui oserait le contester, et puis de l'imagination sans fil. Internet, qui est soi-disant une source de création, cette création-là qui n'a aucune consistance, qui est virtuelle, qui n'a pas de fil, qui n'a rien, n'est-ce pas l'imagination sans fil ? Donc, Breton avait des moments de préscience indéniablement pour moi. Et quelque part, reprendre l'idée de Michel Carouge en faisant évidemment l'inventaire de tout ce qu'il a dit, mais Carouge parlait, en ce qui concerne le Breton et le surréalisme, d'une sorte de matérialisme magique. Je crois que c'est une belle définition, pour ma part. Que cette forme, que cette approche-là est effectivement à retenir. Alors, je vais conclure là par ces paroles, parce que le temps qui m'est imparti est à présent terminé, mais je voudrais quand même conclure par cet extrait d'André Breton que je trouve magnifique et qui résume bien l'homme, en fait. C'est un extrait de sa très belle lettre adressée à sa fille Aube, écusette de Noireuil. D'ailleurs, tenez, écusette de Noireuil, quel beau titre, André Breton disait qu'il n'avait aucune aptitude au calembour, au jeu de mots. Et moi, quand j'ai lu ce titre, écusette de Noireuil, l'évocation est tellement bête, est tellement belle, pardonnez-moi, écusette de Noireuil, le triste lapsus que je viens de faire, cette évocation est tellement belle, écusette de Noireuil. Mais figurez-vous que, par contre, moi qui aime beaucoup les anagrammes, qui suis très, comment dirais-je, sensible à la langue des oiseaux, qui était la langue chère des alchimistes, j'ai cherché pendant très longtemps ce que pouvait bien être une écusette de Noireuil. J'ai cherché écusette, je n'ai pas trouvé Noireuil, j'ai dit c'est peut-être une région. Je ne trouvais pas du tout. Et un jour, le déclic, ben, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, noisette d'écureuil. Mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver ça. Alors, je voudrais vous lire cet extrait, qui sera la conclusion. Et j'ai parlé d'un certain point sublime dans la montagne. Il ne fut jamais question de m'établir à demeure en ce point. Il eut d'ailleurs, à partir de là, cessé d'être sublime et juste, moi, cessé d'être un homme. Faute de pouvoir raisonnablement m'y fixer, je ne m'en suis du moins jamais écarté jusqu'à le perdre de vue, jusqu'à ne plus pouvoir le montrer. J'avais choisi d'être ce guide. Je m'étais astreint, en conséquence, à ne pas démériter de la puissance qui, dans la direction de l'amour éternel, m'avait fait voir et accordé le privilège plus rare de faire voir. Je n'en ai jamais démérité, je n'ai jamais cessé de ne faire qu'un de la chair de l'être que j'aime et de la neige des cimes au soleil levant. Merci.
Merci beaucoup, Patrick.